BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
La France de BFM Bourse se rassemble chaque après-midi et les marchés se confessent auprès d'Étienne Braque, depuis la Tour Euronext. Il est au cœur des marchés, effectivement, il est à leur écoute. Depuis la salle de contrôle du CAC, rebonjour Étienne, on est à une demi-heure maintenant de la clôture. Comment se présente
tout
à l'heure la clôture en Europe ?
C'est un début de semaine dans le calme avec un CAC 40 qui fait une petite pause, qui consolide légèrement, moins 0,1%, sous les 8100 points, néanmoins 8076 points. Des volumes d'échanges qui sont vraiment très faibles, hein, puisque vous avez seulement 1,2 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien. Et pour cause, vous n'avez pas de publication d'entreprise aujourd'hui, alors qu'il y en a quand même 9 tout au long de la semaine dans l'indice. Et puis vous avez les marchés qui sont dans l'attente de la Fed mercredi, jeudi de la publication d'Apple, et puis enfin vendredi l'emploi américain. Donc vous voyez, c'est une semaine chargée qui nous attend et donc un début de semaine dans le calme. À noter que pour l'instant, le mois d'avril est un mois de pause sur les marchés avec une baisse mensuelle d'un peu plus d'1% après 5 mois consécutifs dans le vert.
Effectivement, et cette semaine, on va la faire en 4 jours en Europe, en tout cas sur la plupart des marchés européens, puisque mercredi 1er mai sera une journée sans cotation, par exemple à Paris et sur de nombreux autres marchés européens. Cette semaine en 4 jours, elle s'annonce malgré tout dense. On va vous apporter un coup d'avance sur la Fed, sur les publications, sur Apple et Amazon qui avaient annoncé leurs résultats. On reparlera de Total Energy aussi, qui, pourquoi pas, réfléchit à un jour faire de Wall Street sa place de cotation principale. Est-ce un électrochoc ? On parlera de l'ESG et de ses avantages, bien sûr, mais aussi certains de ses inconvénients avec nos experts du club dans une poignée de secondes. Et puis l'anti-obésité, qui continue de monter en puissance, ce sera le match de la semaine sur les marchés. Les fabricants de médicaments anti-obésité vont annoncer leurs résultats cette semaine. Eli Lilly et Novo Nordisk. Et en face, on aura aussi cette semaine les résultats de McDo et Coca-Cola. On en parle, on est à vos côtés jusqu'à 18h.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et parallèlement, le titre Tesla à Wall Street gagne en ce moment. Il est 11h05 à New York, 12% plus, 12% Tesla après les 24 heures d'Elon Musk en Chine. Elon Musk qui a réussi à franchir un certain nombre d'obstacles réglementaires qui devraient donc permettre à Tesla d'enfin déployer son logiciel de conduite autonome FSD en Chine. On en parlait avec John Plassard tout à l'heure, c'était à 15h30 si vous avez raté le direct replay sur notre site BFM Bourse et l'application BFM Business. Quel avenir pour Tesla désormais en Chine après donc cette visite victorieuse quand même d'Elon Musk d'à peine 24 heures sur place. Et quel potentiel plus largement sur les marchés ? On va poser la question à nos experts du club, ils sont là, ils viennent de s'installer. Xavier Patrolin, bonsoir Xavier.
Bonsoir Guillaume.
Président d'Albatros Capital. Véronique Riche-Flores aussi nous accompagne en fil rouge cet après-midi. Rebonsoir Véronique.
Bonsoir Guillaume.
Pour RF Research, on est content de vous accueillir l'un et l'autre. On va bien sûr parler Total Energy dans un instant. Pourquoi pas Tesla, tiens, qui fait un pas important quand même en Chine. Là, le titre gagne 12% à Wall Street. Mais d'abord, l'état des marchés. On avance bien dans la saison de publication. Le mois d'avril est négatif sur les marchés. Les publications dispersement arbitrées. Comment est-ce que vous voyez ce que nous disent les entreprises ? Est-ce que vous êtes plutôt dans le camp des gens plutôt rassurés, Xavier, en l'occurrence, ou plutôt déçus par les premières publications en Europe ?
Non, globalement, c'est plutôt rassurant au niveau des marges, mais c'est plutôt inquiétant sur les évolutions en termes de volume. Au fond, on est dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que globalement, les entreprises arrivent à préserver des marges extrêmement élevées avec des effets volume plutôt légers, voire même négatifs. Et donc la question qui se pose, c'est la soutenabilité du niveau de rentabilité des entreprises. Et j'avoue que j'ai une interrogation aujourd'hui. Donc en effet embarqué, le niveau des marges reste plutôt bon. Il y a eu sur le marché français, il y a eu le profit warning de Kering, mais globalement ça reste plutôt bon. On voit que le consensus a plutôt tendance à continuer à réviser, ça s'effrite, que ce soit pour 2024, 2025 ou 2026. On a plutôt des révisions, mais c'est très léger, hein, mais on a plutôt une érosion du chiffre d'affaires, une érosion des marges, et parallèlement des marchés qui sont pas loin de leur plus haut. Donc ça passe tant qu'on a ce niveau de rentabilité, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire si on rapporte la valorisation des marchés au niveau de rentabilité, on se dit non, rassure-toi, il n'y a pas de problème. Simplement, on est obligé de regarder ce qui s'est passé, la rentabilité qu'affichaient les entreprises, que ce soit aux États-Unis ou en Europe avant le Covid, et elle était significativement inférieure. Donc on reste toujours dans cette logique prix-profit. Mais si on a bien, alors c'est si, hein, il y a beaucoup de si dans ce que je raconte, mais si on a bien une érosion de l'inflation, Ça va être une question essentielle au cours de cette émission. On ne comprend pas bien pourquoi les entreprises continueraient à afficher de tels niveaux de rentabilité. Donc moi, j'ai l'impression que je reste positif pour l'année qui vient, le début de l'année prochaine, mais j'avoue être relativement inquiet pour la deuxième, c'est un peu loin, c'est pas le sujet du moment, mais pour 2025-2026, partie de 2025-2026. Et quand je croise ça avec les indicateurs de stress financier aux États-Unis qui sont au plus bas des plus bas. Je conclurai là-dessus. L'indicateur de stress financier, la dernière fois qu'il s'est retrouvé sur ce décile de faiblesse, c'est-à-dire le niveau de 1, c'est-à-dire dans 95% des cas, sur les 15 dernières années, il a été systématiquement au-dessus. La dernière fois qu'il s'est retrouvé dans cet étiage de stress financier, c'était janvier 2007, ou avril 2007. Tu sais ce qui s'est passé 15 mois plus tard. Donc, d'un point de vue contracyclique, quand je vois l'errement de la Fédérale Réserve actuellement, je dis aux investisseurs, soyez prudents sur le moyen terme. Quand vous avez un niveau de stress financier aussi faible, de telle valorisation, de tel niveau de rentabilité, pour moi, ce n'est pas un contexte favorable à un investissement de moyen terme. Par contre, à court terme, on peut continuer à jouer le marché, mais à moyen terme, c'est-à-dire d'ici 18-24 mois, j'avoue, à commencer à être extrêmement prudent.
Enfin, la croissance est là. Alors, la croissance américaine, en tout cas.
Oui, et justement, c'est le problème.
Pourquoi c'est le problème?
C'est le problème parce que la Fédérale Réserve est complètement à l'envers. Oui. Je suis bien d'accord avec toi, la croissance est là. Et donc, je ne comprends pas cette volonté de la Fédérale Réserve de vouloir venir en stimulation d'une économie américaine qui reste extrêmement solide. Ça se voit sur plein d'indicateurs, mais je vais laisser Véronique.
Alors justement, c'est cette semaine que la Fed va annoncer sa décision politique monétaire, avec une croissance, c'est vrai, qui au premier trimestre a ralenti aux États-Unis, mais on sent quand même que les moteurs restent relativement puissants. Enfin, comment est-ce que vous voyez la dynamique américaine? Et cette Fed, c'est vrai, dans une position de plus en plus inconfortable. Elle avait promis, Jérôme Powell avait promis en décembre dernier des baisses de taux. Désormais, on va vers les baisses de taux, avait-il dit. Le marché y croit de moins en moins, en tout cas de moins en moins rapidement, et on a même cette hypothèse d'une hausse de taux qui monte. On a une probabilité pricée par le marché d'une hausse de taux de la Fed d'ici un an, de 33%, cette probabilité. C'est pas complètement rien, Véronique.
Oui, et ça s'est fait au cours des toutes dernières semaines, effectivement, on a vu cette probabilité de hausse des taux tout d'un coup réapparaître. Alors, de toute façon, les résultats sur le front de l'inflation sont là, hein, ils sont pas bons. Ils sont pas bons dans l'absolu, et ils sont pas bons en directionnel. Alors après, notre travail va consister à regarder dans le détail, et on voit que finalement, il y a quand même des éléments perturbants qui sont pas forcément cycliques, le prix des assurances, etc. Et puis, dans le détail, finalement, les chiffres du mois de mars sont quand même un peu meilleurs que ce n'était le cas en janvier et février. Bon, on se rassure. Mais après, du côté de l'activité, il y a quand même des signes de potentielle faiblesse. Hein. On voit que c'est pas une activité en plein boom, en pleine reprise, avec tous les secteurs en bonne santé, loin de là. Et d'ailleurs, je trouve que le marché de l'emploi nous renvoie tout à fait cette image-là. Quand on regarde le détail par secteur, on voit que les emplois sont très concentrés. C'est de l'éducation, de la santé et des emplois publics, en gros. Hein. Et puis, dans le reste de l'économie du secteur privé, il se passe quasiment plus grand chose depuis 12 mois au moins. Donc il y a des poches comme ça où on sent que l'économie est à flot donc ça sans doute que ça entretient une certaine dose de prudence de la Fed. Mais à côté de ça, on l'a dit, du côté de l'inflation, on ne voit pas les résultats suffisants, surtout dans un cas, alors à la limite on pourrait dire attendons, mais ne venons pas stimuler par des baisses de taux, surtout pas, parce que là on sent qu'effectivement c'est prêt à repartir, pourquoi? Parce qu'il y a des effets richesse encore très importants qui tiennent la consommation, qui tiennent l'immobilier, même si il y a là aussi dans le secteur immobilier on peut raconter presque tout et son contraire parce que c'est très disparate. Et puis il y a surtout un électron libre, c'est la politique de Joe Biden derrière tout ça, et qui est imprévisible parce que grosso modo tous les 4 matins on rajoute de nouveaux plans de soutien à tel ou tel secteur. C'est absolument gigantesque, et quand on a le week-end dernier, enfin le précédent, quand a été votée l'aide de 91 milliards de dollars, si je me souviens bien, pour l'Ukraine, Israël et Taïwan, on se dit c'est une aide qui va à l'extérieur. Non, pas du tout. C'est une aide qui va venir permettre de reconstituer les stocks militaires aux États-Unis, qui va donc avoir une influence immédiate, enfin
Sur le PIB.
En fait, c'est la question.
Ça va nourrir l'industrie, de la défense américaine.
Exactement. Et un peu plus loin, ça peut nourrir la demande de matières premières, etc. Donc, finalement, on voit bien comment, d'une économie qui vivote, on arrive à quelque chose qui se tient et qu'il ne faut surtout pas venir soutenir davantage par des baisses de taux. Donc, Jerome Powell va prendre acte de ceci, sans doute, pour mettre à l'écart toute probabilité de baisse des taux en juin. Et sans doute en juillet.
Et elle pourra baisser ses taux en septembre, juste avant la présidentielle américaine, où là aussi, on dira, à ce moment-là, bah, c'est compliqué.
Je pense qu'il ne nous le dira pas. Oui. Je pense qu'il va sans doute nous dire, nous laisser entendre qu'il y a encore des baisses de taux à son esprit qui sont possibles, mais conditionnées. Et je ne pense pas qu'on aura un Jerome Powell hawkish au point de nous dire, attention, on va peut-être remonter les taux. Non, pas du tout.
Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 ans? Parce que quand même, on a cette croissance américaine incroyable, on est très en retard en Europe, et même en termes de niveau de revenus, les Américains sont en train de plier les Européens, là, les classes moyennes même. On a cet article qui a été publié dans Le Monde qui fait pas mal de bruit ce week-end sur, effectivement, une forme de déclassement des consommateurs européens par rapport aux consommateurs américains, en l'occurrence, Xavier.
Oui, mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. Hein. C'est la fable du lièvre et de la tortue. Le lièvre américain est chauffé au fer rouge par Joe Biden et la Federal Reserve. C'est un raisonnement, d'ailleurs le raisonnement de l'article dans Le Monde est un raisonnement dans le système de prix américain. Il faut le relativiser. La croissance américaine est faite au prix de déficits absolument spectaculaires. Déficit des balances des paiements de plus de 3%, déficit budgétaire entre 5 et 7, endettement des États-Unis qui est celui identique d'une certaine façon ou supérieur à celui de la France, sauf que la zone euro, elle, a un excédent de balance commerciale, a un déficit consolidé qui est plus faible. Donc attention, la messe n'est pas dite. Mais c'est vrai que quand on mesure en PNB par habitant libellé en dollars, l'écart est fait. Mais c'est une course. D'accord, on n'a pas franchi
une photo.
On n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Donc n'allons pas plus. Et alors, dernier point, ceci est fait au prix d'émissions de CO2 absolument spectaculaires. Il faut toujours se souvenir quand même que une croissance américaine, chaque point de PIB aux États-Unis, c'est deux fois et demi plus de CO2 émis que dans la zone euro. Je ne parle pas de la France qui est exemplaire sur bien des aspects de ce point de vue-là. Donc,
mais parce qu'ils produisent davantage sur leur territoire qu'en Chine. Nous, Européens, on fait davantage produire par la Chine que sur notre territoire en Europe. C'est une explication, conséquences de la désindustrialisation.
Pas uniquement, non. C'est simplement que l'activité commerciale économique américaine est du point de vue énergétique est beaucoup plus intense que l'activité en zone euro. On intègre marginalement les importations américaines, mais c'est bon. Donc oui, il y a pour l'instant ils ont essayé le spinnaker, ils vont beaucoup plus vite que nous. Sauf que quand vous hissez le spinnaker et qu'il y a du gros temps qui arrive, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc les Européens, eux, sont confrontés à un choc énergétique qui est asymétrique, qui n'est pas le même qu'aux États-Unis. Les États-Unis sont producteurs, nous étions importateurs, et donc ça crée une asymétrie. Mais cette asymétrie, on va le corriger peut-être lentement, mais on va le corriger.
Bon. Donc, dites aux Américains, ne criez pas victoire trop vite. Là.
Voilà, exactement. Ils ont carrément gagné c'est une victoire. Mais ils n'ont pas gagné nécessairement la guerre.
Il nous reste 18 minutes jusqu'à la clôture, 17h17. On entre dans la dernière ligne droite et on accélère. Le CAC 40 est en repli. Malheureusement, légère baisse, dans de faibles volumes en plus. C'est vrai que c'est une semaine à trous là, qui nous attend, puisque la journée de mercredi ne sera pas une journée de cotation à Paris. La bourse de Paris sera fermée. Aujourd'hui, le CAC 40 est en repli de 0,17%. La lanterne rouge, c'est Hermès, figurez-vous. Hermès qui recule quand même assez nettement, plus de 2%. On a aussi Safran qui recule d'1,8%. Mais c'est le secteur du luxe, globalement, qui pèse le plus sur l'indice CAC 40, puisqu'au-delà d'Hermès, LVMH aussi recule d'1,7%. Et puis à la hausse, quand même, Eurofins scientifique qui gagne 4%. Hors CAC, Philips qui dénoue un litige aux États-Unis et ce titre Philips qui récupère, tenez-vous bien, 28,5% avec des rachats de short quand même qui expliquent en grande partie ce rebond impressionnant de Philips à la bourse d'Amsterdam, plus 28,5% donc à 25,39€. On continuera de parler de la clôture à venir. Etienne Braque sera avec nous dans quelques minutes depuis la Tour Euronext. Auparavant, Véronique et Xavier nous accompagnent. Quel sera le temps fort de la semaine à vos yeux? C'est la question qu'on pose sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse. à nos auditeurs et téléspectateurs. Vous pouvez vous tous vous y abonner. Quel sera pour vous le principal temps fort? Est-ce que ce sera la Fed, dont on a parlé à l'instant? Est-ce que ce sera plutôt la publication d'Apple, jeudi soir Apple, celle de Stellantis à Paris, qui sera très suivie aussi? Ou finalement, vous vous concentrez sur le jour férié du 1er mai, qui pour vous sera le marqueur de cette semaine sur les marchés? Vous êtes nombreux à voter, n'hésitez pas à continuer, nous laissez vos arguments aussi en commentaire. On a beaucoup parlé de la Fed, là, Véronique, Xavier, c'est parce que c'est le principal rendez-vous de la semaine ou c'est plutôt du côté des publications d'entreprises, d'Apple par exemple, qu'il va falloir tourner le regard?
Je pense que la Fed reste le principal rendez-vous, même si effectivement c'est une réunion intertrimestrielle. Donc le vrai grand rendez-vous, il sera en juin. Mais ça me paraît effectivement un rendez-vous top priorité.
Vous voteriez la Fed de votre côté, comme la majorité de nos auditeurs et téléspectateurs, à 45%, vous estimez que c'est la Fed qui sera principal rendez-vous de la semaine devant Apple. Vous êtes un peu plus de 15% à voter Apple, jeudi soir Apple, l'intelligence artificielle, les développements d'Apple qui aujourd'hui progressent à Wall Street. Le titre Apple de 3%, puisque plusieurs sources nous disent qu'Apple s'intéresse beaucoup à ChatGPT et pourrait vouloir utiliser ChatGPT dans un certain nombre de ses solutions. Apple donc en hausse à Wall Street de 3%. Ça veut dire que l'IA, ça continue de compter. On finissait par se poser la question parce que Meta a annoncé de grosses dépenses encore à venir dans l'IA. Bah, ça avait fait baisser le titre. On s'était dit la semaine dernière, l'IA, ça ne fait plus forcément rêver. En tout cas, c'est plus mécanique, c'est plus automatique, la hausse des valeurs quand les groupes annoncent des investissements dans l'IA. Voilà. Est-ce que la thématique IA reste magique en bourse ou on est sur la fin?
Je pense qu'on est au terme.
On est au terme.
On est au terme. Oui. Ça a duré à peu près pas loin de 18 mois. Et je pense qu'on est au terme du processus. Ça veut pas dire que l'intelligence artificielle ne recèle pas des potentiels de moyen terme, mais le marché va attendre que ça délivre vraiment et que ça se voit entre guillemets dans les chiffres. Donc là, on a une espérance qui va devoir. Et donc moi, je serais pas étonné qu'on ait un retrait. D'ailleurs, on commence à voir Nvidia. Bon, on va pas uniquement réduire l'intelligence artificielle à Nvidia, mais on commence à voir que ça commence à scotcher un peu. Et d'ailleurs, Nvidia, dans un de ses communiqués, je crois, déposé à la SEC américaine, mentionnait qu'il commençait à avoir une forme de concurrence en termes de produits. Donc non, ça recèle, ça reste toujours une. Mais moi, si je devais investir dans les prochaines années, j'attendrais un petit rétro, si j'ose dire, ou voire même un gros rétro. Ce qu'il y a toujours dans des bulles spéculatives, elles sont pas nécessairement infondées, mais l'espérance va un peu trop loin, et donc l'espérance est recalibrée progressivement par rapport à des obstacles de transition. Les choses ne se déploient jamais toujours telles qu'on le croit sur des spreadsheet Excel. Il y a toujours des éléments de frottement qu'on oublie, qui viennent ralentir la progression. On a d'autres concurrences qui peuvent, des acteurs qui peuvent venir perturber. Oui. Et donc, je pense, non, moi j'irais plutôt, déjà, je serais un petit coup un peu contrariant, j'irais plutôt sur les valeurs ou secteurs qui ont été stressés par l'intelligence artificielle, en me disant qu'elles ont peut-être eu une prime de risque un peu excessive. Vous voyez, je me mettrais un peu dans cette perspective-là.
Ah oui, téléperformance, par exemple.
Par exemple, ça me semble un excellent candidat. C'est un candidat qui a eu une espèce de fatwa définitive et qui est rangé au rebut. Je pense que la messe n'est pas dite et je regarderai ça effectivement de plus près.
Cette thématique IA, pour vous, elle commence à s'user. Je ne parle pas industriellement et technologiquement. Hein, l'avenir appartient à l'intelligence artificielle, on a tous compris, mais boursièrement parlant, en l'occurrence, Véronique.
Oui, je pense. Après, tout n'est pas dans le même panier. Je pense que Nvidia n'est pas l'équivalent d'autres. C'est vrai qu'elle est montée de manière tout à fait spectaculaire, mais il y a un vrai marché. Tout à l'heure, on parlait de l'industrie de la défense, de l'armement. Ça fait partie aussi des secteurs qui peuvent profiter de ce surcroît de demande à venir. En revanche, j'ai vu en attendant un entrefilet. Alors, je crois que c'est McKinsey qui a sorti une étude sur les déceptions des entreprises qui ont beaucoup de mal finalement à retirer les bénéfices de leurs efforts d'investissement dans l'IA. Et ça aussi, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire d'abord, il y a les entreprises Nvidia, etc., qui sont des fournisseurs de puces électroniques et puis qui accompagnent le développement de l'IA. Et puis, il y avait tout l'espoir d'un développement de la demande lié à la propagation de l'IA dans le monde industriel. au sens large. Et là, là, ça se fait pas tout seul. Et c'est normal. C'est logique. Ça prend plus de temps. Il faudra, ça peut prendre des années d'ailleurs, avant d'en voir les retombées. Mais du coup, entre temps, effectivement, il y a une phase de digestion. Et puis, donc, oui. Ça retombe. Je pense que c'est plutôt comme ça que je comprends les choses.
On suivra Apple jeudi. Amazon aussi publiera demain soir, Xavier.
Oui, non, surtout sur l'intelligence artificielle. Le concept est efficace à partir du moment où vous avez des métadonnées. C'est-à-dire que tout acteur qui veut vraiment développer une PME, n'importe qui veut développer un module d'intelligence artificielle doit en préalable avoir des métadonnées homogènes et réactualisées en permanence. Et ça, donc, c'est un préalable extrêmement lourd.
C'est ce qu'a dit Google. Google investit 3 milliards de dollars, c'est l'annonce du jour, 3 milliards de dollars dans des centres de données, dans l'Indiana et en Virginie.
Voilà. Et donc ça, c'est pour stocker l'information. Mais vous, en tant qu'entreprise, si vous voulez le déployer comme élément central de votre stratégie, vous devez avoir déjà mettre au clair vos données. Et donc si, du point de vue informationnel, vos données sont disparates, non homogènes, ou en tout cas il y a un certain nombre de blocages réglementaires ou fonctionnels, vous ne pouvez pas mettre en œuvre l'IA. Et puis je passe sur le fait qu'il y aura probablement des blocages plus comportementaux, c'est-à-dire peut-être, puisque l'IA peut déstabiliser énormément dans nos métiers, y compris des métiers dits à forte valeur ajoutée, et on peut penser que peut-être que dans les métiers à forte valeur ajoutée, on est des volontés un peu de freinage parce que c'est une question de survie.
Effectivement, une autre thématique extrêmement puissante qui n'a cessé de monter en puissance ces dernières années, un peu plus ancienne que l'IA, c'est la thématique de la finance durable, l'ESG. Et là, on a une forme de retour de bâton quand même. D'abord parce que depuis plusieurs trimestres, l'ESG en bourse sous-performe. Et puis aussi parce que Total Energy envisage, pourquoi pas, de faire de Wall Street sa place de cotation principale. Parce que la part des Américains au capital de Total ne cesse de progresser. Les Américains, ils ont un peu moins de filtre ESG que nous. Ils achètent encore le titre Total Energy alors que les Européens en achètent plus. C'est ce que dit le patron de Total Energy. Et donc, pourquoi pas, Wall Street comme prochaine place principale de Total Energy. Est-ce que tout est la faute de l'ESG, quoi? Enfin voilà, est-ce que là on a une forme de moment de lucidité sur l'ESG et ses implications globales, ou c'est plus de la politique qu'autre chose en l'occurrence? Xavier,
moi j'ai toujours été personnellement contre l'ESG, donc je vais faire bondir probablement beaucoup de gens, non pas de ses intentions de moyen terme, mais de sa mise en œuvre. C'est une mise en œuvre qui a été purement, puisqu'au fond, en faisant très court, les autorités européennes ont organisé un dispositif réglementaire et administratif pour flécher l'épargne européenne vers une nomenclature d'investissement qui correspondait aux normes ESG. Donc au fond, on a fait basculer la gestion institutionnelle européenne dans une espèce de système ubuesque qui consistait à définir un purgatoire et un enfer et un paradis.
Et donc ceux qui étaient dans le purgatoire, il y a une sorte de fatwa sur un certain nombre.
Exactement. Côté, ouais. Et donc pour un titre comme Total, il est précédé de toutes les l'économie fordisme, c'est-à-dire qu'il est carboné, évidemment, il émet du CO2, même s'il développe des énergies renouvelables. Il n'est donc pas développement durable. On passe sur le fait qu'il produit de l'électricité. De surcroît, il génère des surprofits post-conflit russo-ukrainien. Donc, c'est un groupe qui voit les gestions institutionnelles européennes rester en stand-by, voire sortir de ce titre, et qui voit, à l'inverse, de l'autre côté de l'Atlantique, des gestions institutionnelles ou à travers le monde. Parce que ne n'oublions jamais que les Européens sont à peine 400 millions et qu'il reste quand même 7 milliards 500 millions d'individus qui ne sont pas soumis à l'ESG. Donc les Européens échappent au principe de réalité. Donc c'est normal. Et donc ce qu'annonce M. Pouyanné, c'est au fond un gros warning. Parce que quand il dit « je vais aller me faire coter principalement sans déplacer mon siège social », mais c'est une vaste plaisanterie. Si vous allez vous faire coter principalement aux États-Unis, c'est évident que le siège social de Total déménagera aux États-Unis.
Non, pourquoi ?
C'est évident. Mais vous croyez que les investisseurs américains qui font la loi continueront à accepter que le siège social reste en Europe,
en fait,
ou en France?
Ils ne pourront pas intégrer le S&P 500 si leur siège social reste en France, ce sera très compliqué, mais ils peuvent ne pas intégrer le S&P 500.
Bien sûr, et à votre avis, le gestionnaire de l'Arkansas qui augmente sa... Qu'est-ce qu'il dira à M. Pouyanné? Combien de temps vous allez rester? C'est un groupe qui est soumis à... ça ne marche pas.
L'influence américaine prendra le pas sur
bien sûr. Et nous, je m'arrête là. Après, la boucle est bouclée. On n'a pas de fonds de réserve, de fonds de pension. En France, si on avait développé, je l'ai dit vendredi sur ce plateau, mais si on avait développé le F2R, le fonds de réserve des retraites, qui avait pour objet de développer un début de capitalisation labellé sous la garantie de l'État. Si on l'avait continué à le doter, il aurait pu avoir comme première ligne, ou parmi ses premières lignes, la ligne Total, et il aurait de surcroît bénéficié des dividendes, donc des surprofits de Total. Et ces surprofits auraient été distribués aux retraités. Là, on n'a pas ce dispositif. Donc, il n'y a pas un représentant français qui s'exprime par l'État, mais du point de vue actionnarial, il n'y a pas de représentant européen qui s'exprime.
Donc, si la finance durable enlève un peu de souveraineté à l'Europe, est-ce qu'on peut continuer de la qualifier de durable? Non, mais c'est une vraie question qui peut se poser. Tout est une question de biais de prisme, en l'occurrence, Véronique.
C'est encore une question qui va finir par se poser, effectivement, parce que, encore une fois, vous avez une ambition, mais vous ne donnez pas les moyens. On n'est pas les États-Unis. L'Europe n'est pas comparable aux États-Unis en matière de force de frappe. À la limite, les Américains auraient mis en place un système ESG. Ils l'auraient tellement imposé à l'échelle mondiale que ça aurait plié quasiment, sans doute, la grande majorité de la planète à leurs exigences. L'Europe...
Mais elle montre l'exemple, au moins, l'Europe.
Elle montre l'exemple, mais ça ne suffit pas.
La belle affaire.
Et si on montre seulement l'exemple et qu'on ne met pas des moyens gigantesques, colossaux, qu'on n'a probablement pas d'ailleurs, en face, on est les dindons de la farce. Je pense que ça ressemble plutôt à ça. Et c'est assez préoccupant parce qu'effectivement, on avait tous, il y a 10 ans, l'ambition d'une Europe qui montre l'exemple en termes de développement durable, etc. Et donc là, on réglemente, on croit qu'on donne l'exemple et en fait, on se tire des balles dans le pied.
Xavier, vous vouliez rebondir là-dessus, je vous vois vous agiter.
Oui, je ne m'agite pas. Mais je dis, la belle affaire, tu es capable de dire dans la même émission, tu reprenais l'article du Monde de ce week-end qui mentionnait l'écart entre l'Europe et les États-Unis, et tu nous parlais d'exemples. Facilement, cet article met en exergue les contraintes qu'a la croissance européenne. Donc, si tu veux, ça
c'est pareil. C'est-à-dire que les nœuds dans lesquels l'Europe est en train de s'embourber montrent à quel point on est allé peut-être un peu trop vite, un peu trop loin, de façon peut-être idéologique, et si tu veux, l'Europe devient un contre-exemple.
On a été dogmatique, on est en train de détruire notre industrie automobile. On est en train de détruire l'industrie automobile qui était l'un des principaux actifs industriels de l'Europe. Et que voit-on arriver ? On voit arriver des voitures chinoises. Au fond, ceux qui profitent des normes européennes, pas de l'ESG, mais des normes européennes, des normes environnementales, ce ne sont pas les industriels européens. C'est le Parti communiste chinois qui dirige son industrie de production de voitures électriques. Tu rencontres des dirigeants chinois, ils te disent « mais continuez les normes aux Européens ». Nous les lisons. Dès que vous émettez des normes, nous les lisons, nous les analysons et nous exécutons une base industrielle qui pourra répondre à ces normes. Tu comprends le paradoxe ? Donc qu'est-ce qu'on gagne dans quel exemple on montre ? On montre un exemple où on émettra moins de CO2, c'est vrai. C'est d'ores et déjà le cas dans le monde. L'Europe est la zone du monde qui émet le moins de CO2. Mais ça nous empêche pas de détruire notre base industrielle. Donc au fond, la société européenne, elle va vivre comment ? Tu le verras au moment des élections du 9 juin. On en reparlera. Je ne serai pas là le lundi suivant, mais tu verras que probablement le soir ou le lendemain, on aura des analyses assez critiques sur le Green Deal européen, parce que probablement que les opinions publiques européennes auront voté avec leurs pieds sur ces ambitions ESG, parce que dans l'exécution, elles auront été perçues comme non compréhensibles et non pertinentes et destructrices en termes d'emploi.
L'idée est bonne, mais l'exécution là. Dans un monde carnivore, une Europe herbivore à elle seule restera isolée.
Mais l'exécution est centrale, ça sert à rien d'avoir des concepts si dans l'exécution c'est à chaque coup un échec.
Bon, après, il y a aussi des entreprises qui en profitent.
Il faut être pragmatique.
Il y a quand même des entreprises qui en profitent, on va quand même pas.
Sans doute.
Voilà, bien sûr. Et puis la France avec son nucléaire reste quand même assez compétitive.
Mais le nucléaire, tu as vu dans quel état il était il y a à peine 18 mois.
Non, mais là ça va mieux.
Oui, mais tu as vu dans quel état. Et on a passé 20 ans à s'auto-flageller sur le nucléaire. On a quand même eu un virage à 180 degrés. On a été capable de fermer Fessenheim en disant qu'on allait en fermer 15 tranches supplémentaires. Et puis là, au moment où les Russes attaquent l'Ukraine, d'un seul coup, on décide de réouvrir 6 EPR, puis d'en rajouter 8 derrière. Ça, c'est ce que j'appelle faire une rotation à 180 degrés. Donc moi, je ne vois pas de cohérence. Du côté allemand, manifestement, les CO2 non carbonés émis par les centrales nucléaires étaient non pertinents, puisque du côté allemand, c'était considéré comme une énergie non renouvelable. Oui ou non ?
17h32, on entre dans la data room. Chaque soir, nos experts se livrent. Xavier, Véronique, êtes-vous prêts?
Oui, nous sommes prêts.
Oui. Oui, oui, Véronique, oui. Je ne vous ai pas entendu.
Vous êtes prêts? Oui, sans doute.
Oui, oui. Alors, on va commencer avec vous, Véronique, effectivement. Votre chiffre, votre data ce soir, Véronique, 2 353 $.
Oui.
De quoi s'agit-il?
Eh ben, apparemment, je n'ai pas fait dans l'originalité, mais ce sont les cours de l'or. En tout cas, de ce matin, après, ça a baissé un petit peu. Les cours de l'or qui me semblent intéressants parce que finalement, surtout la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, déception sur la croissance américaine, mais surtout l'inflation américaine qui montait plus haut que prévu et une hausse à nouveau des taux d'intérêt. Et finalement, ben, les cours de l'or ont continué à surperformer, en tout cas, oui, à bien se porter et à gagner du terrain. Et donc ça remet en question la théorie selon laquelle les cours de l'or évoluent en sens inverse des taux d'intérêt. Mmh. Et je pense que c'est important parce que ça nous envoie un message effectivement sur la réalité de cet actif et la manière dont il fonctionne. Hein. On est tout le temps en train d'essayer de remettre à niveau nos bases de compréhension et d'analyse. Et là, on voit un actif effectivement dont la valeur est sans doute alimentée par des problématiques géopolitiques, bien évidemment par des politiques également étrangères et des acheteurs d'or contre dollars, mais sans doute, je pense encore, cette idée que l'inflation va rester dans les tuyaux, quoi qu'on dise et quoi que fassent les banques centrales à brève échéance, le 2% d'objectif, on va le maintenir, mais d'ici à ce qu'on l'atteigne, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'eau sous les ponts, et c'est peut-être ça que l'or nous raconte.
Vous vous êtes montrée généreuse en data ce soir, Véronique, à vous, Xavier. Votre chiffre, 23%.
Ouais, moi, je suis plus modeste, 23%. 23%, c'est la pondération des 10 premières valeurs du MSCI World. Le MSCI World, c'est un indice mondial qui représente pas loin de 3000 valeurs, 47 économies, 24 économies avancées et 23 en développement. Et évidemment, dans ces 23, on retrouve avec donc 10 valeurs, on fait 23% de l'indice
mondiale,
et évidemment, on ne trouve que des valeurs américaines. Et donc ça, c'est un signe extrêmement inquiétant parce qu'on pourrait très bien dire que c'est des effets de taille, des économies d'échelle que valorisent ces valeurs américaines, de logique de plateforme. Alors on retrouve évidemment les GAFA, des banques américaines, tout ça. Mais je pense que c'est un signal relativement inquiétant à moyen terme. Et moi, je le recroiserai avec le chiffre que vient de mentionner Véronique, parce que l'évolution de l'or, ça nous dit peut-être autre chose. Ça nous dit peut-être qu'il y a quelque chose de vicié et qu'il y a peut-être des acteurs actuellement qui se préparent contre quelque chose en achetant de l'or. Donc pas uniquement des Chinois qui sont confrontés à des pertes immobilières, mais il y a peut-être des acteurs, pas uniquement des banques centrales, qui se protègent, qui hedgent marginalement.
Mais on n'en sait rien. Enfin, avec des si, on mettrait pas en bout de.
Non, mais c'est extrêmement rare d'avoir une configuration comme celle-là.
D'accord.
D'avoir l'or, le bitcoin, le dollar qui monte. À la veille d'une baisse des taux hypothétiques de la Fédérale Réserve, c'est extrêmement rare. Enfin, le Bitcoin, c'est tout récent, évidemment. Donc, c'est quelque chose à suivre, à mon avis.
Merci à tous les deux. Vos datas et voilà, ces alertes à nos auditeurs et téléspectateurs, ce coup d'avance que vous nous apportez avant la clôture, les experts du club. Merci Véronique Riche-Flores, RF Research. Merci Xavier Patrolin, Albatros Capital. Et dans un instant, la clôture, on va appeler Étienne à la tour Euronext, la clôture des marchés européens. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Étienne Braque est avec nous pour cette clôture, effectivement, puis la tour Euronext. Rebonsoir Étienne, comment termine-t-on cette première séance de la semaine?
Bonsoir. Dans le rouge et sur les plus bas niveaux de la séance, puisque vous avez un CAC 40 qui perd 0,29% ce soir au fixing, sous les 8100 points à 8065 points. Comme attendu, vous avez des volumes d'échanges qui sont absents. 2,8 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice. Pas de publication ce soir dans le CAC 40. Il faudra attendre demain avec notamment Stellantis ou encore Téléperformance. Au total, ce sont 9 sociétés de l'indice qui vont dévoiler leurs chiffres d'affaires. Hors CAC 40 également, ça va bouger avec Air France KLM qui va publier ses résultats demain matin. À noter que du côté de Wall Street, à l'inverse, c'est du vert, grâce notamment à Tesla qui gagne un peu plus de 10% après la visite d'Elon Musk en Chine. Vous avez également Apple qui prend quasiment 3% avec des informations qui évoquent que le groupe est en échange avec OpenAI concernant le développement de fonctions d'intelligence artificielle pour ses appareils. Donc ça permet à l'indice Dow Jones de gagner 0,2% grâce à Apple. Et puis le Nasdaq de son côté est en hausse, mais une hausse beaucoup moins franche que tout à l'heure, puisque désormais l'indice gagne 0,1%. Du côté des valeurs qui ont fait cette séance. À noter le secteur du luxe qui est en retrait. Hermès, des volumes d'échanges qui sont faibles, bah, c'est pas très bon pour la liquidité du titre, moins 2,2% à 2 298 €. Vous avez LVMH qui perd 1,6%. Et puis à l'inverse, Eurofins qui a fortement baissé ces derniers jours se reprend avec une hausse de 3,6%. Et puis vous avez également le secteur bancaire qui continue de surperformer à l'image de BNP qui gagne 1% à 67,72. Hors CAC 40, les annonces potentielles concernant Atos et une renationalisation de certaines activités propulse le titre de 19% à 2,27 €. Et puis Orpea gagne un peu plus de 6%. Toujours beaucoup de spéculation sur ce titre. Le CAC 40 donc il clôture en légère baisse ce soir, moins 0,3%, mais néanmoins sur les plus bas niveaux de la séance à 8065 points avec des volumes qui sont absents donc ce soir, 2,8 milliards d'euros avant les résultats d'entreprise, l'emploi américain et puis bien évidemment la Fed mercredi soir.
Effectivement, Gilles est avec nous, Gilles Santacreux puis boursicoté.com. Ce sera une semaine dense, même si à Paris il y aura un trou au milieu de la semaine, le 1er mai il n'y aura pas de cotation, les volumes ce soir sont d'ores et déjà faibles. Effectivement, quel signal cette première séance envoie-t-elle, Gilles, pour la suite?
Ça signale qu'on va attendre les news majeures qui sont attendues effectivement à partir de mercredi, puisque mercredi on aura la Fed. D'ailleurs, votre sondage, je pense, il y a une aussi statistique qui va être très importante, c'est celle qui va être diffusée vendredi, hein, le NFP, qui est aussi un élément important, qui peut justement avoir de l'influence sur la politique menée par Jérôme Powell. Donc on va avoir effectivement une fin de semaine à haut risque, donc peut-être que l'on est ici dans une phase d'attente, on l'a vu, très peu de volume. Un CAC 40 qui clôture sur le plus bas de la séance après avoir ouvert sur un petit gap haussier. Donc cela nous indique qu'il n'y a pas réellement de conviction puisqu'on démarre la séance avec une petite conviction haussière et on termine la séance sur une petite phase de baisse mais qui n'est pas très importante. D'accord. Donc on va surveiller, hein, c'est toujours ce range 8092-7975. Tant que l'on est entre ces deux zones, c'est relativement neutre à tous les points de vue et globalement par rapport à la séance du jour, eh bien, on était effectivement dans une phase d'attente.
Gilles qui va nous accompagner jusqu'à 18h en direct et tout de suite on va non seulement refaire cette séance mais justement vous apporter des idées pour vos portefeuilles et répondre aux questions que vous nous envoyez de plus en plus nombreux sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn également. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce à Cécile Aboulian qui nous accompagne ce soir pour une extenso. Bonjour, bonsoir Cécile.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Effectivement, première séance de la semaine un peu morne, un peu terne. Les volumes sont faibles. Le CAC 40 recule en clôture ce soir de 0,2%. Mais on a déjà un certain nombre d'actualités d'entreprises. On va en parler. La semaine s'annonce effectivement riche et dense. Pas mal de publications à venir encore. Allez, quelle est, parmi les valeurs du CAC qui vont annoncer leurs résultats, quelle est celle au singulier que vous allez particulièrement suivre?
Celle que je vais regarder particulièrement cette semaine, ça va être Capgemini, qui va publier son chiffre d'affaires T1. Pourquoi ? Parce que c'est notre champion du conseil en services informatiques, qui a déjà des publications qui ont eu lieu. Je pense à Alten, à Sopra, qui ont révélé des croissances organiques plutôt mornes, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui croît par croissance externe, mais aussi par croissance organique, mais l'organique, c'est ce qu'il faut regarder. Et dans la mesure où c'est l'acteur le plus important, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment il va se situer par rapport à une guidance annuel qu'il a déclaré entre 0 et 3% sur 2024, sachant que le consensus sur le T1 est plutôt négatif et attend plutôt une décroissance sur ce T1.
Ah oui, c'est quand Capgemini? C'est demain. Publication demain de Capgemini. On aura aussi demain Air France KLM, Thales. Oh, Téléperformance demain après bourse, sera intéressant. Puis Adidas, Lufthansa, grosse journée demain. Si vous aimez la bière, Carlsberg aussi va publier demain ses résultats. Alors là, on parlait des très grosses valeurs, très bien. Capgemini dans votre scope. Et puis, vous suivez aussi les petites et moyennes valeurs chez Nextenso. Dans cet univers-là, quelle est celle, parmi les publications, que vous allez particulièrement suivre?
Alors, celle que je vais regarder cette semaine, c'est celle de Hopscotch, le chiffre d'affaires T1. Hopscotch, c'est une agence d'événementiel de RP qui fait près de 270 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un EBE autour de 15 millions d'euros qui est implanté internationalement, qui procède à des croissances externes et qui fait de la croissance organique, qui a eu des résultats historiques sur 2023. Donc le chiffre d'affaires T1 va être intéressant à suivre. Elle a un momentum plutôt intéressant sur 2024 entre les Jeux Olympiques, le mondial de l'auto, c'est une valeur qui se paye pas cher et du coup ce T1 me paraît plutôt intéressant à regarder.
Hopscotch, jeudi la publication effectivement. Vous rappelle la clôture ce soir du CAC 40, petite baisse dans notre tout petit volume, vraiment très très faible. On sent que la semaine démarre lentement et tranquillement. On aura la Fed à surveiller, ce sera mercredi soir par exemple. Puis un petit mot quand même du 10 ans français, puisque Fitch et Moody's ont choisi de ne pas changer la note de la France, ni même la perspective de la note de la France, la France absoute. Et bien sur le marché obligataire, on a une petite détente sur le 10 ans français, mais à l'image des autres taux obligataires, hein, même détente en Allemagne, en Espagne, en Italie et même aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une journée de détente obligataire. Le 10 ans français vient de passer légèrement sous les 3% à 2,99 en ce moment. Une valeur qui se distingue ce soir en Europe, Philips. Philips, le règlement d'un litige, ça se passe aux États-Unis, effectivement. C'était un litige dans les appareils respiratoires, des appareils défectueux. Et le montant de cet accord pour régler le litige d'1,1 milliard de dollars, ce montant est inférieur aux attentes des analystes. Le titre Philips à Amsterdam gagne 30% ce soir, Cécile. C'est des rachats de shorts, c'est très technique ou c'est vraiment le réveil de Philips en bourse ?
Alors, ce souci date depuis 2021. Donc, ce sont des poursuites qui traînaient depuis longtemps. Et Philips, du coup, n'avait pas que ça. Aussi, des résultats négatifs depuis 2 ans. Néanmoins, c'est vrai que l'épée de Damoclès d'une amende plus importante était au-dessus de cette valeur. Si on fait un petit calcul, il me semble qu'il y a 60 000 personnes qui ont été dans ce conflit avec Philips. Donc c'est environ un peu moins de 20 000 euros, sachant que les risques, à un moment donné, c'était de d'un point de vue médical, c'était de savoir si ce qui était inhalé dans ses respirateurs pouvait donner un cancer. Donc voilà, à chacun verra si finalement la sanction financière est assez élevée ou pas. En tout cas, pour les investisseurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça veut surtout dire que maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux résultats et uniquement aux résultats de Philips et pas que à ce procès qui était très important pour...
C'est une épée de Damoclès là, qui se retire, qui s'enlève, qui disparaît et s'évanouit sur Philips, plus 29%. Plus 29% en clôture, effectivement. Gilles Santacru est avec nous, puis le bureau de boursicoté.com. Est-ce que, voilà, cette hausse ce soir dégage un fort potentiel encore pour la suite ou, bah voilà, il y a des rachats de short et finalement l'essentiel du rebond est désormais fait? Gilles?
Là, honnêtement, on peut pas tenir compte de ce mouvement comme un pur modèle, je dirais, d'analyse technique. On est sur quelque part une revalorisation du titre qui est liée à une dépense en fait qui n'aura pas lieu. Donc par rapport même, je dirais, à la bougie qui est inscrite aujourd'hui, on voit que on a effectivement, on culmine, hein, on s'est rapproché à des 30 euros et puis finalement on est redescendu. Mais je pense que on va ensuite continuer à évoluer dans une tendance telle qu'elle était auparavant, c'est-à-dire assez neutre, voire même légèrement baissière. Je ne pense pas que ce mouvement puisse impulser une nouvelle dynamique juste sur cet événement ponctuel. On serait sur une différence de résultats, ouais. ça changerait peut-être des choses, mais là c'est quelque chose, je pense, qui va rester ponctuel dans la lecture du graphe.
Plus 29 ce titre Philips ce soir. Cette question d'auditeur également sur notre fil XBFM Bourse. Il s'appelle Frédéric, cet auditeur, Cécile, il vous interroge sur le titre Innat Pharma. On est dans les biotech. Innat Pharma, que penser d'Innat Pharma? Voilà, question simple, qu'est-ce qu'on fait d'Innat Pharma en portefeuille?
Alors chez Nextenso, on regarde les biotech, on a une équipe spécialisée sur les biotech en analyse financière, donc ils regardent les sociétés cotées sur ce segment-là. Et effectivement, les consultants, ce qui ressort, c'est qu'Innat Pharma est une société plutôt leader sur les biotech. Pourquoi ? Parce qu'elle a des molécules de chimiothérapie basées sur les cellules innées, contrairement aux cellules T, qui sont des cellules innovantes. Elle a réussi, grâce à ça, à bâtir des partenariats avec AstraZeneca, 3 essais cliniques en cours, avec Sanofi, 4 essais cliniques en cours sur des cancers du poumon, sur des cancers du sang, et tout ça sur des bases de valorisation qui sont encore tout à fait abordables. Donc c'est une société dans laquelle nos équipes ont tout à fait confiance.
Vous êtes positif plutôt sur Innat Pharma. C'est de la diversification de portefeuille. On le rappelle quand même à tous ceux qui nous suivent et nous regardent. On est quand même dans un secteur extrêmement volatile. Gilles, d'un point de vue technique, Innat Pharma, c'est une valeur qui, oui, a du potentiel devant elle.
On est sur une fin de consolidation, on a préservé un support à 2,10€, mais honnêtement, il n'y a pas encore assez de mouvement pour justifier d'un éventuel rebond ou d'un éventuel retour à une dynamique haussière. Donc pour l'instant, on reste techniquement sur une opinion légèrement négative qui pourrait déboucher sur quelque chose au mieux de neutre, mais pas encore assez de conviction pour justifier justement un retour, un mouvement haussier puissant, je dirais.
Frédéric, cet auditeur qui nous a laissé sa question sur le réseau X BFM Bourse. Voilà la réponse à cette question, réponse très très complète. Et vous tous qui nous suivez, n'hésitez pas également à nous interpeller sur nos réseaux, également en flashant, en scannant le QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi dans BFM Bourse sur vos écrans. On a aussi cet autre rendez-vous Culture Bourse 15h50 où on répond aussi à vos questions. Ce rendez-vous, vous le retrouvez en replay et en podcast. Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondent, donc à retrouver en podcast et en replay sur notre application BFM Business Culture Bourse. Le CAC ce soir recule de 0,2%, mais il y a une valeur qui cartonne à la hausse. Oh, ça fait du bien de le voir progresser, ce titre, Atos. Atos, puisque l'État devrait reprendre ses activités stratégiques et souveraines, peut-être pour un montant d'un milliard, on verra, d'un milliard d'euros. En tout cas, les investisseurs rachètent Atos. Alors, un peu la même question pour Philippe, est-ce que c'est un mouvement technique, cette forte hausse ce soir d'Atos en clôture, ou est-ce qu'on est peut-être sur le début d'un réveil plus fondamental, Cécile?
Alors, je pense qu'il y avait une série de mauvaises nouvelles sur Atos, avec voilà, des pertes depuis 2021, le mur de la dette, 4,6 milliards à fin 2023, des offres qui se retirent en février, Kretinsky, en mars, Airbus, des enjeux sur la technologie française importantes. Donc, voilà, il était important que le gouvernement se mobilise pour faire quelque chose, sachant qu'il ne se mobilisera pas seul. Et je pense que c'est surtout plus qu'une opportunité, c'était une nécessité qu'il se passe quelque chose sur ce titre. Et c'est plutôt en cela une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut encore attraper les couteaux qui tombent? Pas tout à fait certaine. Néanmoins, c'est intéressant qu'elle se soit positionnée sur Atos.
Bon, ce titre qui rebondit un peu, mais qui revient qui revient pas d'ailleurs. Enfin voilà, même si la hausse ce soir est quand même nette, le titre pour les actionnaires, ceux qui le détiennent, reste une source de douleur et de souffrance. Effectivement. Le CAC 40 qui termine ce soir donc en petite baisse. Dernière question sur, ben voilà, on aime bien comme ça aller essayer de récolter des pépites. Est-ce qu'il y a une pépite comme ça, une valeur dont vous vous dites, avant les nombreuses publications qui vont arriver cette semaine, ben celle-ci, elle devrait bien performer, quel que soit le contexte et ce que les prochains mois nous réservent, Cécile?
Je vais rebondir sur une publication de la semaine dernière. Oui. Une société qui s'appelle Guimau, qui est un spécialiste des accessoires pour les jeux, notamment les manettes et les joysticks, et qui s'est également fait un nom sur les platines de DJ. Donc, ces marques, c'est Trustmaster et Hercules. Et la semaine dernière, ils ont publié un chiffre d'affaires en hausse de 28%. Donc, c'est une société dont le momentum est intéressant aujourd'hui, qui avait peut-être quelques difficultés après justement un effet de base très très favorable avec le Covid, et aujourd'hui donc on attend plutôt de la croissance, redressement de la rentabilité. Elle a une trésorerie nette de 20 millions d'euros. Elle se paye en dessous de 4 fois son EBE 2024. Voilà, elle a annoncé également qu'elle rachèterait des titres pour les annuler, ce qui veut dire que le placement de sa trésorerie, elle est fait plutôt à ce prix-là dans sa société, ce qui est toujours un signal positif.
Christian Fontaine nous appelle, on est ensemble en direct, il nous appelle depuis le magazine Le Revenu. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Pour Guillaume. Répondre, vous aussi Christian, à ces questions d'auditeurs, téléspectateurs, lecteurs aussi de votre magazine Le Revenu. C'est Greg qui nous a écrit à propos du mois de mai qui arrive en bourse. À partir de mercredi, on sera le 1er mai, et il y a ce fameux adage boursier, sell in May and go away. Autrement dit, attention au mois de mai qui est souvent un mois de prise de bénéfices et de ventes sur les marchés. Greg nous demande si cet adage se vérifie toujours.
Eh ben non, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Lorsque vous regardez les statistiques d'Euronext, eh ben vous voyez que depuis 50 ans, en fait, il y a eu presque autant de bons que de mauvais mois boursiers en mai. Alors c'est vrai qu'il y a quelques exemples historiques. Tout le monde pense à mai 68, moins 8,5%, à mai de 1981, moins 30%. Alors pourquoi donc alors cette mauvaise réputation du mois de mai? Ben c'est vrai qu'au mois de mai, c'est surtout vrai cette année, il y a beaucoup de jours fériés propices à la baisse des volumes. Il y a beaucoup d'appels au marché avec des augmentations de capital après les AG, sans oublier bien sûr l'effet de dividendes qui impacte mécaniquement les cours.
Du coup, quel enseignement est-ce qu'on doit en tirer? L'adage a malgré tout la vie dure. Comment est-ce qu'on doit arbitrer là maintenant à l'approche de ce mois de mai?
Alors l'adage à la vie dure, le mois de mai n'est pas forcément mauvais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une saisonnalité en bourse qui est très forte, et donc l'été est souvent moins performant que l'hiver, donc peut-être sell in May, mais en tout cas revenir au mois d'octobre. Il y a quelques années, BGC avait testé ce phénomène via un fonds théorique investi uniquement pendant l'hiver. Eh bien, il avait constaté une forte progression, une différenciation importante par rapport au CAC 40 qui était resté investi toute l'année, 114% contre une évolution négative sur la période 2000-2016 pour un investisseur qui restait toujours investi. Donc peut-être attention, prudence au mois de mai, notamment après une belle hausse de la bourse depuis janvier, Mais en tout cas, revenez en octobre si vous vendez en mai.
Voilà, merci Christian. Cette réponse à Greg qui nous a donc écrit BFM Bourse @bfmbusiness.fr. Christian Fontaine, le magazine Le Revenu. Bonne soirée Christian. Un grand merci à vous, Cécile Aboulian aussi, de nous avoir accompagnés ce soir et d'avoir répondu vous aussi à ces questions d'auditeurs et téléspectateurs. In extenso nous accompagne régulièrement. Puis on remercie aussi Gilles Santacreux à distance depuis les bureaux de boursicoté.com. Bonne soirée Gilles. On rappelle, le CAC 40 ce soir, il a terminé en toute petite baisse dans de très très faibles volumes. Et cet article consacré à Total Energy. Total Energy qui envisage éventuellement de faire de Wall Street de sa principale place de cotation. On en parlait beaucoup aussi déjà vendredi. Alors peut-être que Total Energy va franchir le pas et traverser l'Atlantique, mais Total Energy n'intégrera pas de sitôt le S&P 500. Et on vous explique pourquoi dans cet article sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Vous pouvez d'ores et déjà le consulter, il est en ligne. Total Energy qui ce soir a d'ailleurs à nouveau progressé. Dans un instant, Good Evening Business, Guillaume Paul. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.